en vessie. Donc tout d'abord, petite précaution oratoire d'usage. Donc, effectivement, je vais m'exprimer ici, non pas en qualité de directeur de cabinet adjoint du ministre président, ni en tant que membre du PS, mais donc je vais me parler même à peine en mon nom, puisque vu le cadre facultaire, il est déjà utilisé, donc en mon prénom, disons ici. Donc ici, c'est essentiellement, donc je suis ravi de m'exprimer à l'occasion de ce cycle sur la simplification institutionnelle de Bruxelles, et d'essayer donc d'analyser en conjointement à la fois ce qui nous est arrivé en termes de nouvelles compétences suite à la défédéralisation de certaines compétences de la sécurité sociale et, je dirais, le fonctionnement institutionnel de Bruxelles. Je me suis dit que c'est une intervention qui requiert en fait un exercice intellectuel un peu particulier, dans la mesure où il suppose de tenir pour acquis une hypothèse de travail que ma pratique dément souvent, à savoir que l'évolution institutionnelle de ce pays répond à une certaine logique ou à une cohérence qui rend ce type de développement pertinent. Donc on va tenir pour acquis que c'est le cas pour faire quelques développements. Ici, en fait, si on regarde à la fois les déclarations de l'accord de majorité qui a précédé la réforme de l'État et toutes les distinctions qui ont été faites au sein des travaux préparatoires tant des lois spéciales de réforme institutionnelle que de la loi spéciale de financement, on pourrait dire d'entrée de jeu que finalement, ce processus a dû être neutre par rapport aux institutions bruxelloises, puisqu'ils affirment haut et fort qu'il n'y a absolument aucune incidence sur la répartition des compétences de manière générale. Ça a été dit donc à différents niveaux. Le propos ici est évidemment de poser qu'en fait il y a bien eu une simplification institutionnelle au niveau bruxellois, c'est en tout cas la thèse à aborder ici. Il y a d'une part une simplification que je dirais assumée, une sorte de rationalisation des acteurs communautaires à Bruxelles, ce que j'appellerais une simplification déduite, qui est plutôt la conséquence directe d'un choix assumé des négociateurs, mais via la modification de la loi spéciale de financement et des réorientations des masses budgétaires. Et alors une simplification que je vais qualifier d'induite, parce que ça c'est plus prospectif en termes de raisonnement, mais c'est de se demander dans quelle mesure les modifications des rôles respectifs entre les acteurs ne vont pas induire des changements, notamment essentiellement au niveau du rôle de la COCOM, mais aussi peut-être dans le cadre de la perception des relations de confiance entre les différents représentants des communautés à Bruxelles. Le propos va essentiellement s'axer sur les matières personnalisables, parce que je pense que c'est dans ce cadre-là particulièrement que vont être centrés les développements. En fait, petit développement aussi, parce que j'ai assisté donc aux autres développements, notamment ceux sur la fusion des communes, mais en général, quand on aborde la question de la simplification institutionnelle à Bruxelles, je me dis qu'il y a toujours une discussion préalable qui doit se faire, qui est une discussion sur les termes, donc le sens et la portée des termes qu'on utilise. Souvent, on oppose simplification à complexité ou complication. Les deux sont présentés comme étant indifférents. En fait, la portée pourtant de ces termes n'est pas exactement la même. Je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Donc, par exemple, mobiliser la parole, marcher sont des processus excessivement complexes, mais ils sont perçus comme simples. Ça met en évidence la différence de nature qu'il y a entre les deux. À savoir que la complexité, c'est une donnée immédiate du réel. Elle a une dimension objective, tandis que la complication, c'est plus le ressenti subjectif de cette même complexité. Pour ce qui est de Bruxelles, ça a une incidence parce que souvent, en fait, la complexité qui est présentée ne tient pas à la substance naturelle de Bruxelles. Elle n'a pas une nécessité. C'est une complexité qui est en fait le produit d'une histoire et éventuellement singulièrement de l'histoire institutionnelle de notre pays. On peut se demander si la simplicité est toujours une vertu en soi. Donc, d'une certaine manière, on peut se demander si la simplification est toujours un outil pertinent pour traiter des questions complexes, dans la mesure où souvent il y a une résistance du réel qui ne permet pas d'aller au-delà d'un certain schéma. Simplifier, et ça on l'a vu avec d'autres débats, c'est toujours aussi la question de l'objectif. Donc, qu'est-ce qui sous-tend les questions en termes de simplification? Simplifier pourquoi? On vient de le dire, simplifier Bruxelles en supprimant la COCOF, la COCOM, etc., pour ne retenir que deux communautés, ben voilà, il n'y a plus que deux acteurs, c'est une simplification, mais elle n'est évidemment pas neutre, puisqu'elle fait l'économie de tout un substrat sociologique et de l'évolution de Bruxelles. Donc il faut toujours se demander de quoi on parle exactement en termes de simplification. Simplifier, c'est aussi mettre en évidence le fait que il y a une difficulté, je dirais, à aborder cette question, parce qu'il y a une résistance aux arguments rationnels. On voit souvent que les interlocuteurs, en fait, s'affrontent sur des logiques qui ne sont pas comparables. Il y a des plans d'analyse qui sont différents. Ça revient à la question de l'objectif qui est poursuivi. Est-ce que c'est rationalisé pour améliorer un outil ou pour réaliser des politiques qui, évidemment, ont une autre portée? Donc, ici, on peut dire qu'il y a une difficulté quelque part aussi, parce qu'il y a toujours dans la question de la lisibilité des institutions, à Bruxelles singulièrement, on a toujours une approche entre le pôle du pragmatisme politique et la ligne claire institutionnelle. C'est-à-dire que c'est... on peut voir qu'il y a toute une série d'éléments qui font que Bruxelles est objectivement relativement complexe. On peut voir ça comme, par exemple, la contrepartie d'exigences flamandes démesurées à certains égards. On peut aussi se dire que toute une série d'éléments qui nous paraissent compliqués sont en réalité des concessions qui ont permis l'émergence du fait bruxellois, qui, sans ça, politiquement, n'aurait pas été possible. Donc, alors, complexe ou compliqué, voilà, ça c'est juste une petite illustration. Si vous voulez vous orienter dans la santé sociale à Bruxelles, ça c'était sur la législature précédente, c'est maintenant beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc, ceci sont quelques éléments, entre objectivité ou pas de la complexité à Bruxelles. Donc évidemment, il y a un éclatement substantiel des compétences. Donc, pour tout ce qui est sauter ici. Je vais juste me reverrer, voilà. Donc, oui, donc ici probablement aussi d'aborder une question, c'est que, comme je l'ai dit, l'institutionnel bruxellois ne procède pas d'une nécessité intrinsèque, mais reflète évidemment la relation paroxystique qu'ont entretenu les pairs de la région bruxelloise. Il faut savoir que Bruxelles est un produit du fédéralisme de la méfiance, et donc c'est toutes des questions qu'on recouvre aussi lorsque Bruxelles reçoit des nouvelles compétences, sur la façon dont on va traduire ces mêmes compétences. Donc, moi, ce que je voudrais prendre comme, je dirais, point de départ pour l'analyse de ces nouvelles compétences, simplification pour moi, ce serait de penser cette simplification en termes avec les objectifs qu'elle poursuit dans le cadre structurant d'une prise avec la réalité. À savoir que la thèse de départ, pour moi, c'est qu'une simplification se justifie si elle occasionne un surcroît d'efficacité dans un cadre structurant qui est celui de l'égalité et de plus de justice sociale. Voilà, ça c'est le point de départ de l'analyse. Et la réalité de Bruxelles, elle a été évoquée. C'est une réalité d'une région qui connaît un appauvrissement constant, donc avec une dualisation accrue des populations, une grande mixité de cette population aussi, un grand turnover, des gens qui chaque année quittent Bruxelles et d'autres qui arrivent. Donc c'est aussi une région qui a ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire qu'elle produit beaucoup de richesses à l'égard du pays, mais qu'elle bénéficie relativement peu. Et donc, elle est relativement dépendante de la solidarité nationale sur le plan macroéconomique, qui est évidemment un élément qui est essentiel pour appréhender l'opportunité de créer une sécurité sociale bruxelloise. Donc, ça a été dit, mais donc l'origine de la défédéralisation de la sécurité sociale, quand on a commencé vraiment à parler de cela, c'est effectivement en 99, au départ de certaines résolutions du Parlement flamand. Je dirais qu'il y a un point commun entre Bruxelles et la sécurité sociale, c'est que ça a toujours été présenté comme un des derniers déterminants du maintien de notre fédération belge, avec l'armée, la monarchie et d'autres grands concepts. Et c'est probablement pas un hasard si on trouve maintenant dans le budget fédéral que les dotations à la COCOM sont dans les dotations et activités de la famille royale. Donc, je ne sais pas si c'est un témoignage d'un inconscient budgétaire fédéral, mais en tout cas, on a dû chercher assez longtemps pour le trouver. Et c'est dans cette partie relativement étonnante qu'elle se situe. Donc, faut toujours se dire que, évidemment, le paysage, quand on aborde la question de la défédéralisation de la sécurité sociale, ben, le paysage institutionnel belge, comme on le sait, est toujours en mouvement. Donc il y a toute une série de réflexions. C'est le... Donc le principe même, c'est que le paysage institutionnel belge est toujours évidemment en mouvement. Il s'adapte au soubresaut de la technique institutionnelle. Il y a des modifications qui se font même en dehors du cadre des grandes négociations institutionnelles, comme c'est le cas évidemment des grands rondes, quand on affirme qu'il y a des grandes discussions entre toutes les parties du pays. Ici, dans certains cas, si je prends par exemple le cas de l'assurance autonomie ou la Zorg für Sécurité, il y a eu évidemment quelque part déjà des grandes discussions sur la défédéralisation de la sécurité sociale, mais hors contexte de réforme de l'État. C'était évidemment un moment de discussion, de modification, des agencements, de savoir quelles étaient les possibilités des uns et des autres pour mettre en œuvre certaines politiques qui touchaient de très près à la sécurité sociale. Bon. Sur le contexte politique, mais ça a été dit juste avant, il y a évidemment l'idée que certains ont mis en avant très rapidement le fait qu'il était très difficile de penser à la fois une défédéralisation de la sécurité sociale comme étant des nouvelles compétences pour les communautés sans renforcer parallèlement le poids de Bruxelles. Ça a été mis en évidence par M. Sinardet notamment. C'est ce qu'on appelle, certains ont appelé dans la doctrine néerlandophone, le paradoxe de Peters ou le paradoxe flamand. C'est qu'il y a une sorte de double injonction paradoxale à vouloir remettre en cause le statut de Bruxelles et vouloir communautariser la sécurité sociale. On se rend compte très très vite qu'ils ont but sur le statut de la région bruxelloise, le fait qu'effectivement la volonté francophone de ne pas vouloir créer une sous-nationalité rend la région bruxelloise difficilement contournable. La discussion, c'est évidemment, comme j'ai dit, c'est l'occasion de sonder les intentions. Donc on se demande toujours, défédéraliser, certes, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour servir à un objectif de protection sociale accrue? Est-ce que c'est au contraire, ou parallèlement, l'objectif simplement d'apaiser des tensions communautaires? Ou bien alors, on peut se demander, dans certains cas, si la question de la défédéralisation de la sécurité sociale n'est pas aussi un alibi pour l'affaiblir, puisqu'il y a au nord du pays, par exemple, des partisans de l'affaiblissement de la sécurité sociale pour une orientation d'un modèle moins basé sur la solidarité, mais plus sur des modèles assurantiels privés. Donc voilà, toutes ces questions sont en germe dans l'appréhension du problème. Quelles sont les raisons qu'on met en avant généralement? On a évidemment les raisons générales qui sont liées à la pathologie centrifuge de notre État, mais aussi des raisons spécifiques à la matière qui sont mises en avant. Donc, qu'est-ce qui motive les discussions? C'est évidemment toute une série de revendications qui sont basées sur les transferts financiers. On se souvient des images frappantes avec les camions remplis de billets qui sont supposés symboliser les transferts financiers du nord vers le sud. On met en avant toute une série d'éléments qui expliquent ces transferts financiers ou des éléments de crispation qui justifient de défédéraliser certaines compétences de sécurité sociale. Ce qu'on met en avant généralement, c'est soit des différences en termes d'application de la législation, donc le Wallon profiteur de certaines prestations. En réalité, si on regarde bien, en fait, la législation applicable rend relativement peu de marge de manœuvre possible quant à l'application. Donc en fait, les différences sont souvent plus des différences qui sont corrélées avec des différences de population ou bien en termes d'offres de soins, ce qui explique souvent les différences en termes de chiffres entre le nord et le sud. Donc disparité régionale de dépenses, l'influence des politiques communautaires. Donc c'est vrai qu'il y a un même remboursement fédéral pour des institutions qui sont parfois agréées ou contrôlées différemment, donc ça peut être source de tension. Et l'influence des pratiques médicales, souvent, on fait la distinction entre ce qu'on considère être une espèce de pratique médicale d'origine plus latine, opposée à d'autres en Europe qui sont plus anglo-saxonnes, et qui, en fait, se recoupent plus à des approches universitaires différentes pour traiter des pathologies. Donc, certaines sont plus institutionnalisées et donc coûtent plus cher que d'autres. Donc, toutes ces questions sur les raisons d'aborder la défédéralisation de la sécurité sociale sont aussi des raisons qui charrient une série de préjugés, de confusions. C'est ce que je disais avant sur la difficulté d'objectiver et de rationaliser des débats quand on touche à ce genre de discussion. Au niveau de la méthodologie, ben, ça c'est un peu aussi une difficulté pour sur le plan institutionnel quand on décide d'aborder ce sujet, c'est d'essayer de déterminer quel est le véhicule le plus naturel pour une défédéralisation de la sécurité sociale. Il faut savoir que ce sont les politiques sociales sont de nature plus hétérogène que les grandes compétences régaliennes. Et il suffit en fait de les analyser pour voir qu'elles touchent à différents secteurs. C'est vrai que par exemple, quand on parle de politique de santé, ben, on parle à la fois de fourniture de soins, de programmation, d'agrément, de remboursement de soins, mais on peut aussi parler d'encouragement au sport, on peut parler de lutte contre les assuétudes, donc ce sont d'autres types de compétences. Les politiques d'emploi, ben, ce sont des politiques qui touchent, traditionnellement, on va penser à l'assurance chômage, par exemple, réduction de cotisations sociales pour les groupes cibles, mais c'est aussi la politique économique qui va de pair, donc c'est aussi l'aide aux entreprises, réglementation du marché de l'emploi. Il est assez difficile de faire sourdre donc, une cohérence dès qu'on aborde la mosaïque des compétences qui touchent à toutes ces compétences. Difficile, dès lors, d'isoler des blocs homogènes et sans avoir tout de suite une multiplicité d'acteurs qui sont compétents. À Bruxelles, on voit bien que c'est ce qu'on expliquait avec le tableau juste avant, c'est que pour aborder une politique avec cohérence, on doit faire appel à toute une série de facteurs, et on est tout de suite beaucoup à devoir se mettre autour de la table pour avoir des politiques cohérentes. Pour ce qui est des répartitions des compétences, ben voilà, on a, c'est de la psychologie sociale, ça touche à la fois à des matières communautaires, donc effectivement les matières personnalisables, ce sont les c'est tout ce qui est aide aux personnes et soins de santé. On a des compétences culturelles qui sont aussi abordées. Comme, c'est vrai que l'emploi a un lien direct avec la formation professionnelle, compétences culturelles. Et évidemment, toute une série d'autres... Si je regarde juste un point, c'est que on voit apparaître l'INAMI expressément, évidemment, dans la loi comme une exception, une réserve fédérale à la compétence de santé. Mais la sécurité sociale en elle-même, évidemment, elle apparaît dans la loi spéciale comme une exception à la compétence fédérale en matière, à la compétence régionale, pardon, en matière économique, dans le cadre de l'union économique et monétaire. Donc, on voit bien que elle est abordée de manière un peu éclatée dans la législation. Ici, pour ce que on a mis en œuvre au niveau bruxellois, on voit bien que c'est au niveau bruxellois, on a d'une part évidemment une série de politiques qui ont été rattachées aux politiques en matière d'emploi. Donc là, la question a été essentiellement celle de savoir qu'on avait déjà évidemment des réceptacles bruxellois pour les politiques de cette nature. Donc la question était plutôt de savoir si on maintenait le caractère paritaire de certaines compétences ou pas, en fonction les compétences allaient dans l'administration centrale ou bien au sein d'Acquiris qui est un organe de gestion paritaire. Donc il faut évidemment se dire qu'ici, communautariser, c'est évidemment, ça semble assez naturel parce qu'il y a toute une série d'affinités avec les matières personnalisables. On l'a vu, ça pose évidemment la question de Bruxelles, un modèle qui n'est plus spécialement avec deux communautés, mais plus un modèle qui est à quatre. Le problème central, évidemment, des communautés par rapport aux matières qui touchent à la sécurité sociale, c'est l'incompétence des communautés à l'égard des personnes à Bruxelles. Or, la sécurité sociale fonctionne évidemment essentiellement comme un mode de transfert aux personnes, parce que même quand elle passe par le biais d'institutions, c'est généralement lié à un service qui a été presté à l'égard des personnes. Donc ici, on a eu toute une série de discussions dans le cadre de la 6e réforme, et donc finalement, on a une méthodologie qui a été appliquée pour déterminer effectivement si les compétences allaient être attribuées à la COCOM à la COCOM, je dirais, exclusivement ou à l'ensemble des communautés sur le territoire bruxellois. Et généralement, c'est un raisonnement qui a été fait par analogie, c'est-à-dire qu'on a regardé comment les compétences étaient exercées par le fédéral actuellement, pour voir si c'était exclusivement la COCOM qui devait les recevoir, ou si c'était des services plus à destination des institutions. Et alors, généralement, on verra que ce sont des compétences qui ont été partagées officiellement, en tout cas, entre l'ensemble des acteurs communautaires sur le territoire bruxellois. Donc la 6e réforme, quelque part, a creusé un sillon, elle a fait tomber un tabou, puisqu'on a touché, quelque part, toute une série de compétences de sécurité sociale, mais elle a aussi défini, quelque part, une méthode. Donc la question, c'est de savoir, évidemment, quel va être le devenir de cette d'éventuelles discussions communautaires sur le sujet. Donc, ça va être fou. Ici, j'emprunte, puisqu'en plus l'administrateur général de la COCOM est dans la salle, donc j'emprunte à son site internet le petit algorithme cocomien qui avait été réalisé pour aider le citoyen à se repérer dans la jungle des compétences, qui est assez bien fait, mais permet de montrer aussi que, malgré tout, même si on peut le schématiser, les choses ne sont pas toujours aisées. Donc, ici, il y a peut-être une petite incise sur les matières personnalisables. Juste pour mettre en évidence le lien avec l'histoire de la région bruxelloise, il faut savoir que, d'entrée de jeu, donc évidemment, le siège de la matière, c'est l'article 128 de la Constitution, et les différentes matières personnalisables sont définies à l'article 5 de la loi spéciale des réformes institutionnelles. Tout de suite, en fait, dès le départ, on s'est rendu compte, avec l'article 107 quater de la Constitution, que l'idée de créer une région bruxelloise posait la question de la protection juridique à accorder aux habitants néerlandophones de Bruxelles. Quand il s'est agi, en 80, d'identifier toute une série de matières qui justifiaient une politique différenciée, l'idée de les confier à la région posait un problème dès lors qu'il s'agissait de ce qu'on a appelé les personnes gewone materies, donc les matières qui étaient spécialement liées à l'individu et liées à la conception, une certaine conception sociale et au lien linguistique que des particuliers pouvaient entretenir à l'égard des institutions. L'idée était évidemment qu'il y avait la crainte de voir ces compétences arriver dans un giron régional qui était essentiellement dont les décisions auraient été finalement soumises à un diktat francophone, puisque composé essentiellement par des francophones. L'attribution évidemment d'une série de compétences, non pas à la région, mais de donner des compétences dites personnalisables aux communautés, ça permettait évidemment à la communauté flamande d'exercer des compétences à l'égard des néerlandophones de Bruxelles, et donc quelque part faisait disparaître la crainte d'un diktat francophone. Et donc ça a permis, par ce biais-là, de laisser à la région de sa capitale la possibilité de se développer, mais c'était évidemment le rattachement des conseils de matière aux communautés dans ce cadre-là. Des compétences personnalisables à Bruxelles, mais on voit aussi qu'il y a toute une série d'acteurs qui sont compétents à des titres divers. Ça, c'est quand même une source de difficulté en termes de lisibilité des politiques communautaires à Bruxelles. C'est que tant la communauté flamande que la communauté française ou la COCOF sont compétentes à l'égard des matières personnalisables, mais elles sont compétentes à l'égard des institutions qui sont exclusivement rattachées aux dites communautés. Alors, par contre, la COCOM dispose d'une compétence résiduelle, c'est-à-dire qu'elle a une compétence directe à l'égard des personnes et des institutions dites bicommunautaires, à savoir celles qui ne sont pas exclusivement rattachées à l'une ou l'autre communauté par le critère donc, de l'organisation. Par ailleurs, la COCOM a également une possibilité, c'est de se voir attribuer des compétences exclusives en application de l'article 128, paragraphe 2 de la Constitution, c'est-à-dire une compétence qui va, comme son nom l'indique, exclure les compétences des autres communautés. Et donc tous ces acteurs peuvent intervenir à des titres divers sur le territoire bruxellois, ce qui évidemment ne simplifie pas la lecture qu'on peut en avoir. Donc la COCOM, c'est évidemment quand on a commencé à aborder des contacts avec les secteurs, notamment dans la foulée de la fédéralisation de la 6e réforme, il y avait évidemment une grande inquiétude qui s'est manifesté, qui était aussi lié au fait que la COCOM est un acteur très peu connu à l'heure actuelle sur le territoire bruxellois. Elle pouvait bénéficier du jour au lendemain d'un budget conséquent et de nouvelles compétences, mais finalement, à part ceux qui sont professionnellement versés dans ce genre de problématiques, pas grand monde ne connaissait l'existence de la COCOM avant la 6e réforme de l'État. Donc ici, donc en deux mots, on le sait, c'est la COCOM, tout comme les autres. La COCOF et la VGC sont des héritières des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise. Elle dispose donc d'un statut d'autorité décentralisée, d'un pouvoir organisateur dans une série de matières, mais c'est plus ça qui nous occupe, elle est évidemment une véritable entité fédérée, et elle dispose donc d'un pouvoir normatif plein et entier. Elle n'a pas d'autonomie constitutive, et elle n'a pas de pouvoir fiscal. J'emprunte aussi au site de la COCOM une petite caractéristique, c'est que son administration le dit, elle est remarquable pour son ingéniosité. Elle est donc mondialement connue pour son ingéniosité, ça j'emprunte aussi donc au site de la COCOM. C'est un petit élément à mettre en évidence. La sécurité sociale et les rapports et les matières personnalisables, bon, il y a toute une doctrine très pointue sur la question, ça fait l'objet de débats juridiques très intenses. Dans un premier temps, on s'est longtemps demandé si on pouvait défédéraliser la sécurité sociale sans une réforme de la Constitution, à savoir est-ce qu'on ne dénaturait pas quelque part la notion de matière personnalisable en mettant des compétences de sécurité sociale dans ce cadre-là. Et un des autres grands débats, c'était évidemment de savoir quelle était la marge de manœuvre dont disposaient les communautés pour mettre en œuvre des politiques qui flirtaient avec la sécurité sociale. C'est donc toute la question notamment de la Sorgfältigkeit, avec toute une série d'arrêts qui n'ont pas toujours été très clairs en la matière. Mais donc, la question centrale, c'est de savoir quelle était la portée de la réserve fédérale en matière de sécurité sociale. Est-ce qu'il fallait lui accorder une exception extensive ou restrictive? Donc, ça, c'était évidemment tout ce qui était Sorgfältigkeit et, je dirais, initiative flamande pour mettre en œuvre toute une série de politiques en matière d'autonomisation de la personne. C'était quelque part un mouvement ascensionnel, puisque c'était les communautés qui venaient chatouiller un peu la sécurité sociale au départ des compétences personnalisables. La sixième réforme, évidemment, le mécanisme est inversé, puisque c'est directement au départ de compétences fédérales qu'on défédéralise et que l'on octroie les nouvelles compétences aux communautés. Donc, de toute façon, ici, comme j'ai dit, il y a un chenal institutionnel qui a été creusé. On va voir, évidemment, quel est les développements ultérieurs que ça pourra réserver. Réforme de l'État, on ne va pas le développer, mais donc l'ensemble de la réforme, c'est excessivement large. Comme on voit, ça touche toute une série de secteurs. Donc, ici, je ne vais pas non plus évidemment vous présenter l'ensemble des matières transférées, parce que ce serait un peu fastidieux, mais donc rappeler, comme on l'a dit, qu'il y a deux grands blocs de deux types de compétences qui ont été, ce qu'on peut mettre ensemble. Il y a d'une part toutes les compétences qui ont été attribuées exclusivement à la COCOM, donc c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas aux autres communautés sur les territoires bruxellois de mobiliser des initiatives publiques. La plus connue, évidemment, la plus symptomatique, c'est celle qui touche aux prestations en forme familiale, qui est évidemment un domaine particulièrement aigu et symboliquement fort. Alors, pour mémoire, d'autres, comme le contrôle des films, mais essentiellement aussi l'allocation de personnes âgées, consultations, sauvages, tabagiques, des fonds MPCO, et toute une série d'investissements sur le plan des infrastructures hospitalières et les aides à la mobilité, évidemment. Toute une série d'autres compétences sont octroyées à la COCOM aussi, mais en partage avec les autres communautés, qui donc peuvent développer des initiatives dans toute une série de domaines. Et je ne peux pas les lister non plus, mais ce sont c'est là dans la mosaïque de compétences dont on a hérité. Donc ça, la COCOM peut les mettre en œuvre, mais sur un pied d'égalité avec les autres communautés. On a encore toute une série donc ici de compétences. L'accord prévoit évidemment aussi d'autres compétences transversales, comme la fixation de la politique des prix, qui a une incidence aussi sur les questions. Au niveau de la sixième réforme de l'État, mais il y a, avant de vraiment envisager la simplification sur Bruxelles, il y a peut-être quelques éléments à mettre en évidence. Donc c'est clair que ici, à défaut de loi générale de la thermodynamique institutionnelle, ben, on a peu simplifié au niveau institutionnel à Bruxelles. On a chargé la barre, mais on n'a pas vraiment simplifié d'institution. On n'a pas supprimé d'institution. La seule chose qu'on a supprimée, comme je mets, c'est la volonté de supprimer la COCOM, puisque ça, c'était le seul élément qui était vraiment distinct dans l'accord bruxellois de 2009 temps et dans la loi donc Octopus sous Verhofstadt 3, on avait la volonté, toute une série de parties étaient d'accord pour supprimer la COCOM. Évidemment, on le sait bien, au sortir des discussions sur la sixième réforme, on a abandonné cette prétention puisqu'elle s'est imposée comme un acteur incontournable. Une des caractéristiques, évidemment, de la sixième réforme de l'État, c'est l'importance des masses budgétaires liées aux compétences transférées. Quand on dit le syndrome de Ptolémée, c'est l'idée que, on a, dans l'histoire des idées, on a toujours eu ce moment clé où il y avait cette ambivalence entre le modèle géocentriste et le modèle héliocentriste, puisque l'idée était qu'on devait essayer de prévoir évidemment toute une série de descriptions du mouvement des étoiles. On s'est fondamentalement focalisé sur la question de développer tout un modèle qui permettait d'expliquer cela, mais sans nécessairement, en s'arc-boutant sur le dogme du géocentrisme. L'idée, c'est que souvent, on s'apercevait que le ciel n'était pas toujours à la bonne place, et donc au lieu de venir à contredire la théorie de base, on ravaudait un petit peu le modèle explicatif. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? C'est simplement parce que souvent, quand on lit les articles donc de la Cour constitutionnelle, on se dit qu'on en reste à la conception classique, que le système belge est fait sur la base, qu'il repose sur le principe de la répartition exclusive des compétences. En réalité, on se rend compte que c'est un principe évidemment qui implique que la compétence d'une autorité exclut la compétence de toute autre autorité, que toute situation juridique ne peut être en principe réglée que par un seul législateur, et que donc l'exclusivité des compétences vaut également sur le plan territorial. C'est une règle qui détermine la faculté de financer les activités. En fait, je dirais que ce principe d'exclusivité des compétences, c'est un peu notre dogme géocentrique à nous, et que on se demande quand est-ce qu'on va basculer dans une autre lecture de la répartition des compétences, parce que fondamentalement, la sixième réforme de l'État complexifie la lecture du schéma global. En fait, elle met en œuvre toute une série de dispositifs qui sont soit de réelles compétences concurrentes, soit alors des schémas de compétences cadres, soit des schémas de compétences dont on donne l'exécution aux entités fédérées. Donc, quelque part, le modèle qui est présenté comme très simple, à savoir une autorité est toujours compétente par rapport à une matière sur un territoire, en réalité, à Bruxelles, il suffit de mettre de mettre quelques politiques publiques en œuvre pour savoir que tout le monde a un peu toujours la prétention d'être compétent à Bruxelles et que c'est relativement compliqué de prévoir ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. On a eu à Bruxelles toutes les difficultés qu'on a connues pour le financement des crèches et des écoles, par exemple. Et dans certains cas, on a cru pouvoir s'inspirer de certaines déductions qu'on faisait de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Finalement, on nous expliquait qu'on ne pouvait pas mener certains types de politiques. La sixième réforme de l'État n'a absolument pas simplifié ce type de prospective. Au contraire, elle la rend encore plus difficile en termes d'analyse. L'efficacité d'un système devrait pouvoir être corrélée avec l'insécurité juridique qu'il génère. Ben ici, c'est le cas parce que toute une série de compétences ne permettent pas de faire vraiment la distinction et de différencier quel pouvoir va être compétent par rapport à quelle autre sphère. C'est singulièrement vrai dans les matières de santé qu'on a reçues, qui sont excessivement morcelées et qui laissent toujours une part de la compétence au niveau du fédéral et une autre au niveau des entités fédérées. Donc on va avoir toute une période charnière pour essayer de voir, suite à la réforme de l'État, qu'est-ce qu'on peut faire exactement à certains égards. Donc, volonté de faire du chiffre, c'est une des caractéristiques de la sixième réforme. Pour éviter de dire qu'on défédéralisait trop, on a touché beaucoup de petites compétences morcelées, ce qui ne rend pas forcément aisé la mise en œuvre des compétences, puisque c'est très très varié comme type de compétences que l'on doit mettre en place maintenant. Donc on a, toujours dans le cadre de la sixième réforme de l'État, on peut dire qu'évidemment c'est un accroissement du fédéralisme coopératif. Il y a énormément d'accords de coopération qui doivent être faits et qui doivent être réalisés dans le cadre de la sixième réforme. C'est évidemment très très lourd à mettre en œuvre. On a un approfondissement du fédéralisme centrifuge. Et... en phase avec... Donc, c'est Une autre caractéristique, comme je disais, c'est la difficulté donc, de mettre en œuvre la réforme de l'État, parce qu'effectivement, elle touche à un nombre vraiment très très morcelé, très important de compétences. Au niveau des simplifications institutionnelles qu'on peut dégager, donc évidemment la question c'est de savoir, puisque l'acteur est peu connu, comment est-ce qu'on peut parler de simplification avec la COCOM, mais en réalité, la COCOMisation ou la bicommunitarisation des compétences est essentiellement donc une évolution de la compréhension des matières personnalisables à Bruxelles sur une logique, enfin une compréhension du phénomène communautaire au départ d'une logique territoriale. Moi, j'ai essayé de voir trois niveaux de rationalisation, ceux qui sont explicites, donc qui sont vraiment déduits, à proprement parler, des textes de loi, ceux qu'on peut déduire et ceux que l'on peut induire. Au niveau la rationalisation explicite la plus évidente, ben c'est évidemment lorsque le législateur spécial nous dit clairement que pour telle compétence, au lieu de se retrouver à 4, 5 acteurs communautaires sur un seul territoire bruxellois, ben il n'y en a plus qu'un seul, c'est la COCOM, qui peut donc, quelque part, qui est présumé irréfragablement être compétent pour ces matières et à l'exclusion de toute autre initiative des autres communautés sur le territoire bruxellois. Ça, c'est une rationalisation, puisque c'est symboliquement fort, puisque donc les autres communautés doivent accepter l'idée de ne plus intervenir à Bruxelles sur une compétence. Donc ça, c'est une rationalisation, en tout cas explicite, qui se déduit du texte de la loi. La COCOMisation, donc la bicommunitarisation des matières, c'est sur le plan politique, c'est quelque part la logique de synthèse, dans le sens où, pour les francophones, on n'a pas cédé sur la question des sous-nationalités. Pour les néerlandophones, on n'a pas officiellement régionalisé des compétences communautaires. Donc la COCOM est un peu ce point d'équilibre politique qui permet de procéder à des accords. Elle a évidemment une vertu de cohérence pour le citoyen, puisque au lieu d'avoir une multiplication des acteurs, il n'y a plus qu'un seul référent. Donc une identification plus aisée aussi de l'outil d'action politique bruxellois. C'est une dynamique qui est probablement plus en phase avec la réalité sociale bruxelloise, puisque comme on est en 2016, on n'a plus vraiment les problématiques de rattachement avec les autres communautés, donc à savoir les conflits et les rattachements communautaires au sein de celles sont moins prégnants maintenant qu'avant. On a toute une population qui ne se sent pas spécialement francophone ou néerlandophone à Bruxelles, qui est une population plus cosmopolite, qui est plus internationale, et donc se sent probablement plus éloignée, je dirais, des thématiques communautaires traditionnelles que nous connaissons dans notre pays. On a déjà évoqué le paradoxe de Peter, c'est-à-dire que tout ce qui produit une COCOMisation, ça renforce la légitimité régionale bruxelloise, puisqu'elle est incontournable. Au niveau des intérêts pratiques que l'on peut y voir, c'est que on évite aux institutions un étiquetage unicommunautaire qui est un peu artificiel, puisqu'on sait que la Constitution prévoit un critère qui est le critère du rattachement exclusif à une communauté sur base de l'organisation, mais quand on va voir les institutions, quand on discute avec les services, ils sont totalement abstraits de cette dynamique-là. Donc on leur demande de s'affilier ou de dépendre d'une communauté en fonction de critères qui ne correspondent pas généralement à la réalité des services qu'ils prestent. La COCOMisation, quelque part, c'est on sort de cet étiquetage unicommunautaire sur le territoire bruxellois. On sort aussi de l'incohérence historique de la clé 80-20 au niveau de l'affectation des masses budgétaires, puisqu'on sait que quand la région finance les commissions communautaires, elle le fait sur base d'une clé qui est une clé historique qui aurait dû être, qui n'avait pas vocation à perdurer, mais qui a fini par le devenir, et donc qui est quelque part produit une certaine illégalité, puisque les besoins des uns et des autres ne correspondent pas à Bruxelles au ratio 80-20. Donc on a une adéquation entre les besoins exprimés par la population et les moyens bruxellois qui sont affectés, à savoir 100% de moyens bruxellois vont à 100% de besoins COCOM, au sein de la COCOM. Il y a toute une série de questions qui étaient liées à ça, c'est que traditionnellement, la COCOM ne s'est pas développée parce que politiquement, il y avait la présence, je dirais, des deux grandes sœurs communautaires a fait que c'était difficile pour cet outil de prendre sa place à Bruxelles. C'est évidemment moins le cas au sortir de la sixième réforme de l'État, puisqu'elle elle est dotée d'un budget conséquent et de nouvelles responsabilités. On sort d'un mécanisme de dilution des responsabilités aussi, puisque les deux communautés intervenaient pour répondre à des besoins criants au niveau de Bruxelles, des besoins communautaires, comme j'ai cité les crèches, les écoles. Mais quand on a deux acteurs qui sont compétents, évidemment, chacun a sa logique propre et peut rejeter la balle sur le chef de l'autre s'il y a des manquements qui sont mis en évidence. Donc, l'investissement des deux grandes communautés pour Bruxelles, ça, quelque part, c'est une mainmise dont le pouvoir public bruxellois ne disposait pas. Ici, comme c'est le gouvernement bruxellois, avec une autre casquette qui siège. Donc, on a un moyen d'action plus direct sur le développement des politiques à Bruxelles. La possibilité, la COCOM, le fait de rationaliser et de rendre un acteur prépondérant au niveau bruxellois, ça permet aussi l'élaboration de la gestion paritaire de toute une série de politiques qui sont actuellement ou qui étaient actuellement gérées paritairement au sein notamment de l'INAMI. Parce que si on a un éclatement de tous les acteurs communautaires à Bruxelles, c'est évidemment plus difficile de recréer chaque fois des structures paritaires pour la gestion de l'ensemble de ces compétences. Fondamentalement, on sort de la superposition des politiques en matière d'aide aux personnes, dans toutes les matières personnalisables, donc on n'a plus ces différentes couches qui se mettent en place. Donc ça, c'est quelque part, sont quelques éléments qu'on peut mettre en évidence quand on parle de penser les politiques au départ de la COCOM plutôt que traditionnellement au départ de l'ensemble des communautés. Il y a tout ce qu'on peut appeler les rationalisations déduites. Là, je ne vais pas faire des longs développements sur l'agencement des dotations par la loi spéciale de financement, mais ce qui est important de retenir ici, c'est qu'au-delà donc des cas où le fait d'avoir réservé à la COCOM la place centrale se déduit des textes de manière expresse, il y a aussi la conséquence, on peut arriver à cette conclusion, en lisant de pair les lois qui ont quelque part organisé la répartition des compétences et la loi spéciale de financement. Si on a vu qu'il y a tout un bloc de compétences qui sont à la fois qui sont partagées théoriquement avec l'ensemble des acteurs communautaires sur Bruxelles. En réalité, si on regarde la loi spéciale de financement, on s'aperçoit que les moyens financiers qui sont réservés pour l'exercice des nouvelles compétences transférées ont été faits sur base de dotations, qui sont des dotations qui ont été calculées sur des clés population et qui sont en fait, ils viennent uniquement à la COCOM. Ça veut dire concrètement que chaque communauté reçoit des moyens pour les compétences transférées sur base de clés qui sont en fait qui représentent la population sur la région linguistique sur laquelle ils exercent une compétence. Ça a pour conséquence, évidemment, si les deux autres communautés veulent investir sur Bruxelles au départ des nouvelles compétences qu'elles ont héritées de la sixième réforme, elles doivent le faire en utilisant des moyens, leurs moyens propres, mais qui sont des moyens qui ne correspondent que à ceux qu'elles ont reçus pour la région linguistique flamande et la région linguistique wallonne de l'autre côté. Donc, quelque part, l'agencement des dotations et des mécanismes de transfert budgétaire a quasiment, de fait, mis la COCOM comme un acteur prépondérant et sinon exclusif pour la mise en œuvre des nouvelles compétences à Bruxelles. Il y a toute une série de mécanismes qui ont accentué en plus la simplification, à savoir la rationalisation en mettant la COCOM en évidence. C'est ce qu'on a appelé la logique du basculement. C'est donc théoriquement le fait que, comme il y avait déjà des initiatives unicommunautaires sur le territoire de Bruxelles dans le cadre des compétences qui ont été transférées, bien, on a permis évidemment dans un premier temps que l'ensemble des acteurs conservent les moyens dont ils disposaient pour répondre aux besoins qu'ils mettaient en œuvre à Bruxelles, mais le législateur spécial a bien mis en évidence le fait que ces moyens, d'une part, pendant 10 ans, n'allaient plus être indexés, donc ils allaient, proportionnellement à l'inflation diminuer, et d'autre part, qu'après 10 ans, ils allaient diminuer chaque année de 10%, donc à savoir que le signal était donné qu'on ne souhaitait pas, quelque part, qu'il y ait une activité pérenne, unicommunautaire, sur Bruxelles pour toute une série d'activités. On leur a permis de pérenniser leur activité en changeant de statut, c'est-à-dire en quittant le giron, par exemple, de la COCOF ou de la VGC, et en adoptant un statut bicommunautaire, c'est-à-dire en ralliant la COCOM. C'est donc il y a eu au départ toute une série de réticences, singulièrement dans le chef, le secteur qui était visé, c'est principalement le secteur des maisons de repos. En fait, on a réussi à les convaincre d'adopter un statut à destination de la COCOM. Donc elles ont rejoint la COCOM. Donc on a tout un transfert, ce qu'on a appelé le basculement, un transfert d'activité qui s'est fait au niveau de la COCOM. Donc il y a une rationalisation dans le sens où cet acteur devient évidemment prépondérant sur le territoire. Parallèlement à ça, cette volonté de mettre la COCOM en évidence a été mise en évidence au départ des accords de la Sainte-Émilie qui ont également transféré toute une série de compétences de la communauté française vers la région wallonne et vers la COCOF, mais on voit très clairement que dans l'accord de 2013, les parties francophones s'accordent pour plaider auprès de leurs homologues néerlandophones pour un exercice des compétences au niveau de la COCOM pour favoriser l'homogénéité des politiques menées à Bruxelles. Donc ici, contrairement aux autres décrets de transfert qu'on a connus dans le cadre de l'article 138 de la Constitution, l'objectif ici n'est pas de refinancer la communauté française, mais d'accroître l'homogénéité des politiques à Bruxelles. Donc l'objectif, c'est évidemment de sortir, comme je l'ai dit, de la superposition sur le territoire bruxellois de toute une série d'acteurs. À ce niveau-là, il y a une simplification et une rationalisation du paysage institutionnel bruxellois. Ça permet certains types d'évolution, mais c'est qu'évidemment, on sort de ce registre où on a toujours deux communautés qui se regardent en chien de faïence pour savoir quel type de politique elles peuvent mettre en œuvre à Bruxelles. On passe par un acteur tiers qui est mis en évidence. Au niveau de ce que j'appellerais les rationalisations induites, c'est un peu évidemment du wishful thinking, c'est de voir quelles sont les évolutions qu'on peut mettre en évidence à terme. Ben, la COCOM, comme un nouvel acteur prépondérant, ben, c'est un test grandeur nature pour une région bruxelloise plus mature, puisque actuellement, on a en fait un cloisonnement au niveau du partage des compétences, qui est lié historiquement au fait que les ministres se partagent en deux blocs les compétences santé, aide aux personnes, et qui sont à deux chaque fois sur une compétence, ce qui en termes de gestion n'est pas toujours aisé. Ici, on a sur le territoire bruxellois un nouvel OIP qui va arriver sur le terrain. C'est un organisme d'intérêt public qui a vocation à mettre en œuvre toute une série de compétences qui sont héritées de l'INAMI et qui seront gérées sur un mode paritaire. Gestion d'un mode paritaire, ça veut dire que c'est sortir de la co-gestion traditionnelle des compétences au niveau de la COCOM. Donc c'est un acteur tiers, quelque part, qui va pouvoir à intervenir dans la gestion. C'est une manière de relativiser aussi ce que certains craignaient en termes de blocage néerlandophone sur la mode de gestion des compétences, puisque ici on a tout d'abord tous les accords qui seront faits avec les partenaires sociaux, donc c'est plus difficile quelque part de contredire tout un processus de négociation qui a été fait simplement parce qu'il y a il y aurait des blocages communautaires. Donc voilà, on va voir quelle va être l'influence future de cette structure de gestion paritaire sur les relations communautaires à Bruxelles et sur singulièrement la mise en œuvre des nouvelles compétences. L'OIP permet aussi donc de sortir, comme je disais, de ce partage cloisonné santé et de personnes, puisqu'il y a toute une série de besoins qui vont être analysés par les différents secteurs concernés. Donc il va y avoir tant les prestataires de services que des organismes d'assureurs, toute une série de secteurs qui sont représentés dans les compétences sociales santé, qui vont se retrouver, elles, sur des problématiques qui ne sont pas tributaires de cette césure artificielle santé et de personnes, mais de la compréhension, de la mise en œuvre, toute une série de politiques, de manière évidemment beaucoup plus transversale. Donc ça permet de voir aussi quelle va être l'influence hypothétique de ce nouvel organisme d'intérêt public. En tout cas, ça va faciliter une compréhension plus transversale des problématiques sociales à Bruxelles, c'est en tout cas mon intuition. Au niveau de la COCOM, c'est plus ça en relation avec la sécurité sociale, c'est qu'évidemment, on l'a vu, tout ce qui est émanation des initiatives flamandes comme la Zorgburzekering, l'assurance autonomie classique, elles ont mis en évidence le fait qu'à Bruxelles, on ne pouvait pas contraindre les Bruxellois à choisir de s'affilier à un régime plutôt qu'un autre. Donc c'était chaque fois des régimes facultatifs. La COCOM, c'est à creuser, mais l'idée c'est qu'on se retrouve dans la possibilité de pouvoir imposer des cotisations c'est en tout cas une des possibilités qu'il faudra creuser à terme. Si c'est le cas, ça permettra éventuellement d'envisager des modèles de cotisation plus proportionnels aux revenus, donc peut-être de développer des modèles qui sont plus progressifs, plus redistributifs, donc peut-être une sécurité sociale qui bénéficie de moins de moyens, mais qui sera peut-être plus axée sur des objectifs de redistribution sociale. Ça, c'est en tout cas un des paris qui peut être réalisé au départ de la COCOM et pas au départ de la compréhension des communautaires avec les deux acteurs qui sont uniquement compétents pour les institutions à Bruxelles. Difficulté énorme, c'est qu'évidemment, il faut tenir compte de la mobilité des citoyens. Donc, ce sont toute une série de régimes à mettre en œuvre, mais avec la conscience qu'il faut élaborer tous des partenariats avec l'ensemble des nouvelles sécurités sociales qui se mettraient en place sur le pays. Les gens voyagent, ils déménagent, ils se séparent. Donc ça va mettre on va devoir mettre en avant une ingénierie administrative qui est non négligeable. Donc c'est on le voit rien qu'avec la compétence des allocations familiales. Il y en a certains qui sont dans la salle qui travaillent aussi sur ce dossier, qui savent bien que c'est la gestion commune des cadastres informatiques, des cadastres familiaux, avec toutes les modifications qui sont en cours, ça va être un travail vraiment conséquent. Et il y a une partie de moyens conséquents aussi qui vont être investis dans cette infrastructure administrative. Donc ça, c'est la question de la perte d'échelle en termes de rentabilité pour la sécurité sociale. C'est un des éléments qui sont évidemment structurants dans la manière dont on peut analyser les possibilités qu'on a de développer une sécurité sociale singulièrement à Bruxelles. Une des conséquences de ce que je décrivais, à savoir que la COCOM devient un acteur prépondérant à Bruxelles qui reçoit l'ensemble des moyens, c'est évidemment que donc à rebours on a un risque de désinvestissement communautaire. Il faudra analyser, voir quelles vont être les évolutions futures à cet égard.
Stéphane, je te proposais de conclure.
Oui, tout à fait. Quelques minutes. Pour juste peut-être mettre en évidence. Donc on l'a dit, la défédération de la sécurité sociale, ça pose essentiellement la question du financement. Donc on a la littérature généralement effectivement évoque plus le fait d'un maintien de la sécurité sociale au plus haut niveau pour des raisons d'échelle et de partage de risques. La question, c'est qu'on va se demander essentiellement, en tout cas c'est une question que je me pose, c'est de savoir quelle est la possibilité du maintien d'une solidarité au moins aussi efficace qu'à l'heure actuelle, dans une région comme la région bruxelloise qui ne cesse de s'appauvrir. Il y a un approfondissement, en tout cas, de l'identité. Une sécurité sociale bruxelloise, ça veut dire la possibilité de développer un devenir commun, renforcer une solidarité, en tout cas, qui est pour moi un concept qui est plus porteur que celui d'identité. L'identité au sens strict, c'est le projet global au niveau d'une région. Les entités vont devoir circonscrire un cercle de solidarité à l'échelle plus évidemment de leur sphère de compétences territoriales. La question, c'est que ça a à la fois une possibilité d'approfondir un projet régional, mais ça met en cause la possibilité d'une déconstruction de la citoyenneté belge et la remise en cause de la solidarité nationale, évidemment, au niveau de la sécurité sociale, savoir quelles vont être l'incidence du développement de petites sécurités sociales au niveau régional sur la compréhension globale de la solidarité nationale. Ça, c'est une des questions. En tout cas, c'est possibilité d'émergence d'une nouvelle dimension dans le fédéralisme qui serait celui d'une dimension de citoyenneté sociale, vraiment axée plus sur le projet de société en commun. Et donc, ici, juste au niveau des conclusions, donc mettre en évidence le fait que, effectivement, la réforme. Une réforme donc globalement moins idéologique et plus communautaire, moins idéologique communautaire et plus pragmatique. On a donc définitivement enterré le fait de faire disparaître la COCOM. Il y a une certaine complexité du modèle qui demeure, mais il y a la recul d'une complexité apparente, puisqu'on a mis en évidence un acteur qui est l'acteur du communautaire, la COCOM, par le réarrangement des compétences, le déplacement du centre de gravité budgétaire au sein de la région, la progression du modèle régional par rapport aux deux communautés qui se regardent en chien de faïence à Bruxelles, la territorialisation accrue des politiques communautaires, on change de registre, c'est plus sur l'ensemble du territoire communal, des communautés, pardon, mais ce sont les régions linguistiques qui deviennent les référents en fait, des activités, des nouvelles compétences qu'on a reçues, et une décrispation potentielle du modèle de gestion. Donc voilà, je terminerai avec ceci.